Paris, Paris, par ici, la sortie.
Salut, soir à tous et merci d'être à l'écoute d'Allegra FM 93.1 par ici la sortie. C'est toujours Luno Cham et nous allons écouter aujourd'hui la deuxième partie d'une interview. Voilà, en espérant que vous avez eu l'occasion d'écouter la première, mais vous pouvez toujours vous rattraper sur ludocham.free.fr. Voilà, j'avais donc rencontré Gérard Blanc, Alain Pesner, guitariste, et Sylvain Pochard, clavier des Martin Circus. Et ils avaient surtout évoqué la semaine dernière la première moitié des années 70, à savoir une période plutôt peace and love. On va se tourner tout de suite vers la deuxième moitié de la carrière, la deuxième moitié des années 70, où le groupe va un petit peu muter, comme vous allez voir, ils vont nous expliquer ça mieux que moi. Et ils auront aussi l'occasion de rencontrer des gens qui vont connaître un succès énormissime, à savoir Daniel Balavoine ou encore Serge Gainsbourg, dont ils gardent un souvenir impérissable. Voilà, on va donc démarrer tout de suite cette émission avec encore une petite phase B plutôt sympa du début des années 70 des Martin Circus.
côté violent où on avait envie de balancer des gros traits d'énergie, puis on avait un côté love, on voulait tout. Voilà, on était des goulus et des gourmands de musique.
On avait plein de rêves musicaux, fantasmes musicaux.
Mais attends, chacun faisait des trucs. Moi je me souviens, c'est pas pour dire, mais Alain, pendant qu'on partait en spectacle, il était là et puis il disait, je savais qu'il avait un rêve de faire un album à lui de musique symphonique, par exemple. Si loin, dès qu'il était chez lui, il avait un magnéto et il enregistrait piste sur piste des trucs et il faisait.
Même composé Ce n'est qu'un au revoir un soir.
Il faisait des musiques incroyables. Parce que finalement, malgré tout ce que tu dis, le groupe nous frustrait. On n'arrivait pas à exprimer tout ce qu'on avait. Malgré cet éclectisme, on était hyper frustrés par ce groupe. Donc chacun avait des rêves en plus. Mais je veux dire, moi je me souviens d'un truc qu'il a fait où je disais, mais attends, c'est extraordinaire ce truc-là, qu'est-ce que t'en fais? Puis le lendemain, il l'effaçait.
Mais je crois que tu vois, à cette période-là aussi, je crois que vous avez enregistré plus de chansons qu'il y a sur l'album. C'est ce que vous disiez en interview. Tous ces trucs-là, ces inédits, ça ressortira un jour.
Ils sont pas enregistrés.
Ah, ils sont pas enregistrés.
Je sais pas, non.
C'est-à-dire que, encore une fois, la maison de disques a joué un rôle très important.
Elle vous a un peu.
Le filtre.
Vous a un peu frustré, la maison de disques, finalement?
Le mot est faible. Le mot est faible.
C'est marrant, on a l'impression qu'à l'époque. On a l'impression qu'à l'époque, justement, c'était vachement plus possible qu'aujourd'hui, finalement, pas tant que ça. Enfin,
non, ils ont profité de la candeur, de notre candeur.
De notre jeunesse.
Ils ont profité, nous on en avait rien à foutre de savoir ça marche, ça marche pas. On voulait faire, comme disait Gérard, on avait des fantasmes musicaux, c'est tout ce qui nous intéressait. Et tout ce qu'on leur demandait, c'est donnez-nous du studio.
C'est tout.
Et donc, ils ont joué avec ça de façon très maligne. C'est-à-dire sucre, coucou, panier.
Voilà.
Et on a fonctionné à ça quasiment.
Pour avoir notre dose, on aurait fait. C'est pas qu'on aurait fait n'importe quoi, mais ça nous suffisait, quoi. C'est-à-dire que, voilà, on nous donnait notre dose de studio.
C'est moi l'agent secret vêtu de noir qui s'en va chasser l'amour, la mort. J'accomplis mon devoir. Tous les secrets, la nuit sans bruit, marchant à pas de loup, j'accomplis mon devoir. Belle espionne, l'heure est venue, oui, vous avez tout perdu, je vous tiens entre mes bras. Secret, la nuit sans bruit, marchant à pas de loup, j'accomplis mon devoir. C'est moi l'agent secret vêtu de noir, de Copenhague à Bombay. Je vole, je cours sans retard.
Il y a eu la bande originale d'une série à vous de Joe Miller, c'est ça?
Oui, mais c'est ça, c'est le truc qu'on a fait
en vachement agréable.
Parce que c'est collaboration avec François Droubet, qui personnellement, pour moi, c'est un génie aussi.
Super.
Qui a composé plein de musiques de films, un des pionniers, des premiers à avoir des synthés en France.
Puis un super mec.
Comment c'est la rencontre? Comment elle s'est faite?
À travers Vogue.
Je suis plus du tout à travers Vogue.
Parce que ça, c'est vraiment génial.
Mais comme disait Alain tout à l'heure, on nous proposait plein de choses. Ça pouvait aller d'une séance de chœur, qu'à faire un arrangement, à demander à Alain de jouer de la guitare, à Sylvain de jouer de l'orgamon dans tel disque. Donc ça n'arrêtait pas. C'est vrai qu'on était exploités. Et comme je te dis, on avait besoin de notre dose. Donc tout le monde, j'y vais.
Ah ouais, de Roubaix, c'est un mec très intéressant, très sensible, très talentueux, un mec super. Quoi, vraiment.
Et après, il y a eu un album de reprise entier, où il y a eu Marilyn dessus.
Bah ouais, parmi d'autres.
Là, pareil, alors tube numéro 1, je crois.
Ah ouais, c'est celui qu'on a le plus vendu.
Ouais. Mais sur le site, on voit le hit parade de l'époque. C'est vrai qu'on regrette, il y a des gens qui regrettent un peu les années 70 finalement, quand on regarde le top de l'époque, il y a des choses assez monstrueuses.
Vas-y, balance.
Je sais plus.
Il peut y avoir Fugain, Dassin, Sardou.
Non,
mais c'était varié.
Ouais, c'était de la variété. Il était une fois, j'ai encore rêvé d'elle au même moment à peu près. Et il y a eu pas mal de tournées aussi avec tous ces gens-là de la variété, Dave, vous avez fait des premiers. premières parties ou des scènes partagées, etc.
Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Tout ce que la variété française comptait le truc,
alors là, j'imagine que à ce moment-là, tous les fans de la première heure de Martin Circus, là, ils ont dû dire scandale, quoi.
Nous chier dessus.
Ouais. Oh, de toute façon, attends, ils ont chié dessus d'entrée, même quand le Sénégal a marché.
Ah, ouais, ouais, déjà quand le Sénégal.
De toute façon, en France, à partir du moment où tu sois un apôtre le dernier dévoyé, à partir du moment où tu fais un truc qui fonctionne, tu fais de la merde.
Plus maintenant.
À partir du moment où tu deviens populaire, tu fais de la merde. On a craché sur les Beatles de la même façon.
Oui, oui.
Soit c'était séparé ou soit n'existait plus. Et je crois que vous êtes les seuls à avoir continué. Finalement, vous avez muté, quoi.
Oui, on a muté. Ouais. Hein non, c'est ça.
Vous êtes passé à un groupe de variété.
Oui, c'est-à-dire qu'on a muté, puis on n'a pas muté en variété. Après, dans la deuxième partie des années 70, on a été impressionné par l'espèce de mouvement de disco dance qui arrivait. Et nous, on trouvait notre cam là-dedans, parce que c'était souvent arrangé par des arrangeurs qu'on adorait, comme Quincy Jones, et des gens comme ça. Donc pour nous, la disco musique, quand elle est arrivée dans cette deuxième moitié des années 70, on a trouvé qu'il y avait des harmonies riches. Et alors tout d'un coup, on a dit, mais on s'en tape que ce soit un rythme comme ça, métronomique. Donc on s'est aussi
emparé de ça. Tout ce qu'on a joué, on a aimé le jouer.
On a aimé, on a aimé. On a aimé.
À jouer à drague party, on se retrouvera. Glissant sur une vague, le cœur dans les nuages. Prêt à réinventer la vie qui commença avec une fille et un garçon.
La radio et on a rock'n'roll, on chante plus fort que nos idoles.
Drague party, le bon temps ça roule.
Qu'importe, on nous montre du doigt, le samedi soir, on est les rois.
Drague party, le bon temps ça roule.
Drago Party, mais un jour viendra à jouer à Drago Party, on se retrouvera glissant sur une vague, le cœur dans les nuages, prêt à réinventer la vie qui commence à, avec une fille et un garçon.
En fait, on a transcendé.
Transcendé le truc.
Tu vois, c'est bon, ok, allons-y. Et puis, et de balancer tes fantasmes dans un truc qui n'est pas forcément toi. Mais bon, et de toute façon, il faut que ça se fasse.
Jouer Marilyn, c'est très difficile.
C'est très difficile.
Bah, ouais, c'est une basse, elle est bizarre.
C'est une espèce de monstre de la basse qui joue.
Un contrebassiste
de jazz. Il s'appelle Marc Berthaud. C'est lui qui fait la partie de basse. Et c'est quoi ta partie de basse? C'est très très
difficile.
C'est très difficile. En fait, Marilyn, c'est une polyrythmie. Je sais pas, t'as acheté une oreille là-dedans.
Si, ça veut dire qu'il y a plusieurs rythmes sur un même.
Dans un même groupe.
Ouais.
Voilà, exactement. C'est du trinaire.
Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai.
Ouais. Alors,
évidemment, bon, à l'arrivée, ça fait un truc très simple. Mais...
Oui, non, mais c'est un groove particulier.
Tu me fais pipo dans la tête, pipo dans le cœur, oh Marilyn, ma Marilyn. Je cherchais une reine pour aller danser, j'ai vu Marilyn, alors je l'ai invitée, oh Marilyn. Ma Marilyn, ma Marilyn. Tu me fais pipo dans la tête, pipo dans le cœur, oh Marilyn, ma Marilyn.
Ça peut promener les années 70 que Tiki Elgado arrête d'être votre
manager. Ouais. Parce qu'il est parti dans un trip, ça faisait plusieurs années que lui il écrivait. Mais il écrivait des histoires. Et il est rentré dans un trip où il s'est branché avec des auteurs. Et il est rentré dans le trip du théâtre, des écoles de théâtre. Et donc de fil en aiguille, il a quitté la chanson et la musique. Il s'est tourné vers l'écriture, le cinéma et le théâtre. Et puis il a commencé à jouer au théâtre. Je me souviens, je suis allé le voir une fois ou deux dans deux trucs. Et puis tout d'un coup, on lui a proposé un petit rôle. Et puis il a basculé là-dedans avec le côté free qu'il avait gardé de la musique. Donc c'est pour ça que ça a marché aussi, c'est parce qu'il était vachement naturel grâce à toute l'expérience. Parce que dans le rock and roll, dans la musique, les gens étaient plus décontractés que dans le monde du théâtre et du cinéma. Donc il s'est servi de ça.
C'est toujours vrai.
Et puis c'est toujours vrai, certainement toujours aujourd'hui. Vrai. Et il a basculé dans un autre truc. Et voilà.
Et le départ de Bob Bourreau, parce que Bob Bourreau, qui est quand même un génie, enfin je trouve qu'au niveau de la basse, il avait un son énorme.
Oui, il a amené quelque chose.
Ouais. Je suis pas d'accord.
Non, alors ce serait vraiment être de mauvaise foi de pas admettre ça. Quoi. Non, bien sûr.
Donc après, les parties de basse sont jouées par des
très souvent par Sylvain.
Ou par Sylvain.
C'est-à-dire que, elles étaient jouées. Il y a eu une période où effectivement, on a pris des bassistes de studio.
Encore.
Et puis après, on est, comme te disait Alain tout à l'heure, on était vraiment très très barré dans Stevie Wonder, même si ça ne s'entend pas énormément dans notre musique. On a fait un concert avec lui aussi à
Midem.
Et donc, nous, ce qui nous impressionnait chez Stevie, c'était son côté multi-instrumenté. C'est-à-dire que non seulement il se mettait derrière la batterie et puis il jouait, ensuite il faisait le Moog est arrivé et le Moog basse. Et c'est vrai que Sylvain il est parti là-dedans et
fort,
dans le jeu
fort
de basse. Voilà.
Fort.
On a commencé à rentrer dans les machines et à rentrer dans la réflexion et à travailler plus comme des producteurs de Martin Circus. Et voilà, mais on utilisait tout ce qu'on avait appris dans les 7-8 années qui venaient de se passer où c'était plutôt 3-4 et tout le monde jouait en même temps. Et c'est un peu ça.
ça, ça a fait un... Ça marche aux États-Unis d'abord, c'est ça hein.
Ça marche toujours, là. Il y a un documentaire qui sort sur la disco musique aux États-Unis, là, en ce moment, là. Et où notre titre, Disco Circus, il est sur le générique, parce que pour eux, c'est un titre qui fait partie des 10 titres cultes de la disco musique fin 70, début 80, tu vois. C'est fou, quoi. C'est, ouais.
Ah ouais, c'est, je crois, c'est mixé par François Kevorkian, c'est ça hein.
Non, ça a été remixé par, ouais. par François.
Parce que c'est parce que ce type-là, après, a fait des trucs monstrueux. Ouais,
mais c'est pas du tout un mix qu'il a fait, c'est un edit. Ouais, il a découpé.
C'est un morceau qui durait 15 minutes sur
ouais, 14-50.
Un peu comme Donna Summer. Quand
ouais, ça dure 14,
c'est
ça, 14 minutes.
C'est incroyable de croiser dans votre carrière des gens pareils. Ça a dû être des super. Une rencontre incroyable. Ouais, comment vous l'avez rencontré?
Surtout chez lui.
Ouais, surtout chez lui.
Je sais pas,
c'est lui. Dans sa maison.
Rue de Verneuil. On allait chez lui.
Je me rappelle, à l'époque, on avait des motos à cette époque-là.
Oui.
J'arrive en moto chez lui.
Ouais, on avait
frais,
des
et je repartais après avoir vu du cognac dans des bocs à bière.
Et de la foire.
En moto. Non, c'était terrible.
Et je me souviens surtout du soir où je suis allé le chercher.
On a été chez
lui.
Avec le verre. La 14e Marie-Brizard sur la porte.
On l'a ramené au studio et là,
c'est lui qui vous a proposé d'écrire.
Non, il a eu très envie quand il a écouté les quelques maquettes. Il a dit quel est petit gars. Puis voilà, hein, ça s'est fait comme ça. Hein. Mais c'était très naturel, sympa. C'était l'époque où il venait de finir ses albums reggae. Il était dans une espèce de pêche. À chaque fois qu'on allait chez lui, il nous faisait d'abord écouter ses albums qu'il venait de recevoir. Tu vois, alors on écoutait les albums reggae.
Il avait dit non avant nous à une chanteuse québécoise.
Ouais.
Il lui avait dit non, je ne peux pas faire des textes sur cette musique. Là, c'est connu. Hein. Puis nous, on est arrivé, on s'est dit oh putain.
Et non, c'était un pote presque, non? Enfin, non. Vous avez l'air d'en parler
un
comme...
pote, non. Non, mais quand tu travailles avec ce mec-là, t'es tout de suite dans une relation. Mais elle était violente, quoi, au studio. Et puis après, le lendemain, bon, bah, c'est fini. Tu sais, c'est qu'on s'arrache. Uh-huh. Mais ouais, c'est pas un mec avec qui tu étais lointain, quoi.
Ouais.
Tu étais tout de suite collé. Non, mais lui est bien rentré dans l'affaire, hein. Il est bien rentré dans l'histoire, quoi.
Ouais.
Moi, il venait à côté de mon micro me chanter là dans l'oreille. Et tu sais, parce qu'il... Et je te jure, j'avais l'impression d'être comme les. Parce qu'en général.
T'as pris pour Catherine
mais de... voilà.
Il faisait
Moi, j'étais avec le casque. Ah, évidemment, c'est vrai que c'était
très
difficile.
Particulier, ouais. D'ailleurs. Uh-huh. Il mettait le potard à fond, je me souviens.
Et c'était terrible parce que il a fallu tout refaire. Mais en même temps, il avait balancé un truc qui était vachement intéressant.
Ira dans
USSR USA, qui est vachement Super Trump dans l'esprit, je trouve. Ça, pareil, c'était ce que vous écoutiez. C'était
pas justement confusion.
Une erreur de focus.
Au niveau des claviers,
je ne sais pas. Tout Super Trump, alors.
Non.
Doobie Brothers.
Michael McDonald.
D'accord.
Ouais, mais en réalité, c'était plutôt sur Wonderful Believes que sur.
Et une chanson encore très datée de son époque, puisque ça parle de la guerre froide.
Ben voilà, ça parle de la guerre. D'ailleurs, les médias, ils ont dit non, c'est pas Martin Circus, c'est pas guerre froide. Alors donc, il est passé, mais il est passé peu.
Ah, mais il est passé bien travers.
Non, c'est vrai que les médias, à ce moment-là, ils ont dit, mais attendez, il faut pas parler de ça en ce moment. Ils étaient... c'était pas la même langue de bois qu'aujourd'hui.
À la botte du pouvoir, comme d'hab.
Et sur l'album de Sang Froid, qui est sorti début des années 80, on voit pas mal de titres crédités Gérard Pisani. Il était un peu revenu. Alors, il faisait pas partie de Martin Circus, et néanmoins, il a
collaboré. Non, il faisait pas partie du contrat. Mais il a écrit quelques textes, voilà, donc c'est ce qui prouve qu'on n'était pas si rancunier que ça.
Mmh. Ouais, alors les années 80, une discographie un peu plus calme, on va dire. Hein, en tout cas, au niveau de ce qui est sorti dans le commerce. Il y a eu des 45 tours. Mmh. Et le dernier, c'était Trop Sentimental, c'est ça, sorti
dans les années
85.
80,
ouais.
C'est ici d'ailleurs. Hein.
Ouais. Enregistré ici, dans le studio où on est.
C'était ici parce que finalement on a quitté Vogue et donc on faisait ce qu'on voulait comme on voulait.
Et ça a été difficile la rupture avec ce label.
Ouais, c'était difficile. Ouais.
Vous aviez un peu pieds poings liés, les contrats.
Tout simplement pour une raison tout simple. C'est-à-dire qu'on s'en est pas rendu compte, mais quand on a signé avec eux, le président directeur général de la maison de 10 nous a signé, nous a dit c'est formidable.
Les petits gars.
Les petits gars. Il nous a donné à chacun un chèque d'avance de 1000 balles.
On a perdu.
Donc on est parti chacun avec un chèque de 150 € en disant waouh, putain, la vie nous attend. Voilà, on est des héros. Et en même temps, dès qu'on est sorti du bureau, il a décroché son téléphone, il a fait allô, l'INPI. Ouais. Il a dit bon, je voudrais déposer une marque. La marque Martin Circus. Donc, c'est vrai
qu'on a découvert ça, quoi, 4-5 ans.
4-5 ans après, donc après, il a fallu.
On faisait des trucs derrière votre dos, alors.
Voilà. Attends, tu m'étonnes.
Donc, il a fallu. Et donc, on a récupéré la marque, et on l'a récupéré il n'y a pas si longtemps que ça. On l'a récupéré, pour tout dire, il y a 4 ans.
Et donc, ça posait peut-être des problèmes aussi pour d'éventuelles ressorties de disques ou des choses comme ça.
Évidemment.
Pour la compil qui est sortie.
Ça c'est un autre problème. Ils sont toujours quand même malgré tout propriétaires des masters. C'est eux les producteurs, c'est eux qui les ont produits. Donc.
D'accord.
C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'ils ont pesé lourdement sur notre carrière.
Et finalement, moi j'ai l'impression que l'utopie des années 70, elle s'est un peu diffusée comme ça. Et on le sent un peu à travers toute votre musique. Ouais, je veux dire. L'esprit free et tout ça.
Ah oui, c'est ça.
On sent que ça devient de plus en plus cadré. C'est pas négatif ce que je dis, mais,
ah oui, pour moi,
mais vous étiez le reflet de votre époque et finalement ça se ressent sur la discographie. Quoi.
Bah oui, on a dû continuer à l'être, sauf qu'on n'était plus le reflet de l'époque, mais nous on était dans notre époque. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout envie en 80 de faire de la musique des années 69. Ah bah oui. Quoi.
Et partie après avec Daniel Balavoine. Daniel Balavoine, vous l'avez accompagné sur scène.
Alain m'a appelé un jour parce que le clavier de...
Bah, c'est-à-dire que Daniel, un an ou deux avant, bon Martin... ça existait plus, enfin on n'était pas
il y avait une activité
il fallait bien bouffer quoi.
Ouais. Non, puis il y avait eu Téléphone qui était arrivé, il y avait eu des groupes qui étaient arrivés, donc on n'était plus dans la mode tu vois,
je crois que c'était pas trop dans l'autre tronche à ce moment là, je sais pas quoi,
on avait des envies quoi, tu vois,
enfin on avait envie de jouer, bref,
plus de 30 ans
moi j'ai refait musicien de studio pendant un certain nombre d'années, et puis un jour Daniel m'a appelé en me disant tiens bon voilà, j'ai un album à faire, ça te branche machin tout ça, voilà, je suis rentré dans l'équipe de Daniel. On a fait cet album, c'était l'album qui s'appelle La Veuve. Et donc on a fait cet album, machin, tout ça, avec une certaine équipe. Et puis après il y a eu le Palais des Sports. Et à ce moment-là, le clavier qui jouait dans le groupe, Philippe Patron, qui est un bon ami, il a eu un accident de moto, il s'est tué.
D'accord.
Donc Sylvain est venu le remplacer au pied levé une semaine avant le palais.
Incroyable.
Et nous, ça faisait déjà quand même un an qu'on tournait, qu'on connaissait les titres et tout, et lui il s'est arrivé au pied levé.
Ah puis ils enregistraient l'album.
Oui, oui, il y avait resté enregistré. Live en même temps.
Oui, il y a un album là qui est sorti de cette tournée.
Donc Sylvain, encore un exploit à son actif.
Moi je suis allé les voir au palais, putain c'était super.
Ouais, ouais, Balavoine, lui il était, non seulement toute l'équipe était géniale parce que les mecs
c'était
bon.
C'était vraiment bon, un grand moment.
Ouais. Entre chaque chanson, il s'occupait de moi et pas de lui. Il venait me voir dans le noir, il me disait ça va, tu te ressors, ça va, mais il s'occupait de moi.
Comme si c'était 10 ou 15 ans auparavant à l'époque où il jouait dans un petit groupe.
C'est ça, c'est un retour quelque part. Vous vous êtes croisé à un moment où lui, ça fonctionnait pas et vous, vous étiez au top. Ouais. Finalement, c'est resté
relationnel, il est resté tel qu'il était, la nature.
Ouais, donc de toute façon, on n'imagine pas Balavoine, la grossette ou quoi que ce soit.
Ce qui me fait marrer, c'est qu'il n'avait pas trop de fans de gonzesse, tu vois, qu'il attendait.
C'est vrai.
Et le soir, dans les hôtels, il me rappelle de lui, avec la serviette, là, en train d'attendre s'il n'y avait pas quelqu'un pour lui, il n'y avait personne.
Question de sentimental. Oh, je suis trop. chercher, ainsi n'importe quoi. Frapper dans mes mains pour ouvrir le bruit de mon cœur. Mon cœur qui bat, pour qui, pourquoi.
Moi je me souviens d'avoir entendu la radio.
Ouais, ça a bien marché. Mais parce que je trouve, moi je trouve qu'avec le recul, Trop Sentimental, c'est très moderne. Ouais. C'est une des chansons qui a, je trouve qu'elle a pas beaucoup vieilli. En réalité, on passait de l'état de musicien qui font partie d'un groupe à l'état de producteur qui fabrique de la musique en essayant d'avoir la même spontanéité, mais avec le recul du studio et de la console et des machines.
Circus, ça s'est fini comment en fait? Enfin, parce que ça s'est fini peu de temps après, t'as fait une carrière solo.
Oui, moi je dirais pas que ça s'est
serré la main.
En fait,
disons,
non, mais ça s'est jamais.
C'est gentiment.
Il s'est mis en léthargie le groupe, quoi.
Ouais.
Mais on s'est jamais dit, c'est mort, c'est
en. Mais non, c'était. On peut se voir la semaine prochaine? Ah bah non, moi je peux pas parce que je fais un truc. Et finalement, tu sais, l'éloignement, c'est comme des coquilles de noix sur l'océan, puis qui s'éloignent comme ça,
image,
tu vois. Et c'est comme ça. Mais on n'a jamais dit, alors Martin Circus, et voilà, c'est fini, machin. Évidemment, tout le monde nous en parlait. Moi, on m'en parlait évidemment, puisque de mon côté, on me dit alors, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je dis pas. Voilà.
Enfin, moi, je pense que vraiment, hein, Martin Circus va devenir un groupe culte. Enfin, comme je dis, ou peut-être l'est déjà.
Je sais pas, mais, c'est pas à nous de le dire.
Sur le site, on voit par exemple une interview, je pense que vous connaissez Bertrand Burgala, qui est un producteur, excellent producteur. Il parle beaucoup de vous. Il y a aussi toutes les préfaces d'Edeline.
Ouais, je sais qu'il nous aime beaucoup.
Voilà. Il y a quand même des gens qui. Pour un groupe qui a eu un succès médiatique populaire énorme, c'est quand même.
Tu veux dire qu'on n'est pas tricard avec eux?
Parce qu'ils ont, apparemment, ils adorent ce que vous faites.
Oui, c'est ce que je dis.
Moi, je me souviens avoir entendu Edeline aussi dire citer Martin Circus à moult reprises.
Mais c'est bien.
Enfin, c'est un de ses groupes préférés, quoi.
Mais c'est bien. Donc, tant mieux, ça veut dire qu'ils ont des.
C'est peut-être un peu un retour. Parce que c'est vrai que moi, j'ai la sensation que on parle pas suffisamment de Martin Circus en tant que groupe de musiciens, d'excellents musiciens. Et on a l'impression qu'il y a un peu un. Le groupe n'est pas inconnu, mais il est méconnu.
C'est-à-dire que je pense que l'image qui reste collée au groupe, c'est une image d'artiste, de musicien de bubblegum.
Mais je pense
que ce que tu viens de dire là, c'est quelque chose qui a été un état de fait pendant, pendant 4-5 ans, jusqu'à Marilyn, quoi. Et après Marilyn, il y a une image qui a vraiment changé. Et qui est, c'est celle-là qui persiste en fait. Parce que les gens d'aujourd'hui, quand on voit même sur le site Le Courrier.
Oui, les morceaux de drag party, des choses comme ça.
Les gens, ils parlent de leurs vacances, tu vois. Il y a très peu de gens qui parlent en fait du fond.
Mais c'est normal, c'est parce que quand des titres sont très 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 connus, c'est ça qui reste d'un artiste pour le grand public.
Ouais, c'est ça.
Moi, je veux pas citer, il y a 3 semaines, je suis allé à l'Olympia voir The Servant. Pourquoi j'y suis allé? Parce que je connais un titre qui me plaît énormément à la radio, qui est un titre très pop.
Mais orchestra.
Très, très pop, ouais. Orchestra.
Bon. Ça fait très Eurovision, je trouve.
Oui, ça fait très Eurovision, mais moi j'avais adoré ce titre, je suis allé les voir. Bah, quand tu vas voir le groupe, tu te rends compte que ça n'a rien à voir. Mais les gens, pour eux, s'ils ne font plus jamais rien, on se souviendra du titre, de ce titre-là, et on dira « Oh, c'était très pop, très variété. » Or, c'est pas du tout un groupe de pop, voilà.
Ouais, il y a eu plein de petits propos comme ça, ou des groupes de hard rock qui ont fait un tube avec un slow. Et...
Bah attends, tous les groupes de hard rock ont été connus avec un slow.
Bon exemple, Scorpion.
Mais est-ce que vous pensez pas que on redécouvrira peut-être Martin Circus, enfin, peut-être qu'on continue à les redécouvrir via les compiles, ouais, l'anthologie que t'as faite.
Ouais, ouais. Je pense que déjà, c'est à l'anthologie, ça a remis plein de choses. Déjà, ça fait parler du groupe. Déjà,
il y a toujours un retour vers des choses oldies. Il y a toujours des modes plus ou moins sur des artistes. Et moi, je pense que Martin Circus, avec tout ce que vous avez fait, je pense que il y a forcément des gens qui vont redécouvrir, qui vont être curieux après.
C'est quasiment. On peut être que content qu'on découvre des petits trucs à droite.
Parce que bon, quand je parle, comme je vous dis, je fais une émission de radio, je reçois toutes les semaines des artistes, et parfois je leur parle de Martin Circus, et ça les fait presque sourire parce qu'ils pensent à Je m'éclate au Sénégal ou Marilyn, et ils voient pas
Voilà, c'est ça.
Les musiciens que vous étiez, vous êtes encore.
Une méconnaissance des musiciens.
Ouais, voilà, je pense que
c'est bon. Tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est normal. Okay.
Alors, bon, est-ce qu'un jour, parce que là, il y a une anthologie qui est sortie seulement de 40 titres, est-ce qu'un jour, il y aura vraiment une intégrale ou quelque chose de plus conséquent concernant Martin Circus? Je m'adresse à toi, parce que c'est toi qui a l'air d'être le...
Non, c'est moi qui ai initié le projet de l'anthologie, parce que ça m'agaçait, justement, qu'on sache pas tout ce qu'on avait fait. Mais déjà, ça a été un dur combat pour arriver à faire ce truc chez Vol, pour faire une anthologie. Maintenant, pour sortir une intégrale, c'est très compliqué.
S'il reste des maisons de disques un jour,
ouais,
bah à la limite, tu vois, pourquoi pas tout balancer sur le net, quoi, tu vois.
Bah oui, bien sûr.
Oui, comme ça ça se fait parfois. Non, mais c'est vrai que c'est dommage, l'album Acte 3 qu'on trouve pas, ou De sang froid qu'on trouve pas.
Oui, bien sûr, mais attends, mais moi tu prêches un converti. Mais le truc, c'est que tu peux pas imaginer déjà. La danse qu'il a fallu faire pour faire cet objet, quoi.
Je pense au Martin Circus de l'acte 2 toujours, hein. Mais les trois autres mousquetaires entre guillemets, par exemple Bob Bourreau, qu'est-ce qu'il devient,
on ne sait pas,
pas trop de nouvelles
De Bob personnellement. Non, je sais qu'il vit dans le sud plus ou moins, mais souvent à Paris.
René qui était
René, je sais qu'il est dans le sud
aussi. Ils sont tous dans le sud, ils sont tous descendus.
Et Gérard, je ne sais pas.
Comment ça va, ils ont des bonnes royalties.
Oui, ça va. Non,
Gérard, je crois qu'il a fait du jazz un petit peu. Ça,
il a toujours fait un truc comme ça. Il a toujours été sur le côté. Ah. Non, mais bon, comment le dire? Tu sais, quand t'as pas de nouvelles de certaines personnes depuis 10 ans, qu'est-ce que tu veux en dire? T'as des souvenirs de cette époque-là. Je peux t'en raconter 10 milliards. Mais de là, maintenant, si tu me demandes, je sais pas.
Recette les accords et nous sommes. attend? Et alors, qu'est-ce qu'on 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 attend?
Voilà, nous arrivons presque au terme de cette émission consacrée au Martin Circus, plutôt de cette série des deux émissions consacrées à Martin Circus. Voilà, je voudrais d'ores et déjà remercier Angélique Legoupil, voilà, qui est webmistress du site internet martincircus.com. Je vous encourage vivement à aller y faire un tour, il est très complet. Je remercie également Gérard Blanc de m'avoir envoyé la version anglaise d'Il faut rêver, Gonna Keep Flying, qui a servi à illustrer cette interview aujourd'hui. Et je voulais également remercier Christian Zurbach, qui est un très grand spécialiste, entre autres, de la question des Martin Circus, qui m'a un petit peu aidé. Alors, que sont devenus les Martin Circus? Alors, tout d'abord, les trois membres officiels du groupe qui ont accepté cette interview, Gérard Blanc, qu'on ne présente plus, qui est donc interprète de variété depuis les années 80 et qui s'apprête à réaliser une comédie musicale autour du thème du poète François Villon, et on attend cette comédie musicale avec grande impatience. Alors Sylvain Pochard et Alain Pesner, tous deux, bah, après avoir accompagné Balavoine, ils ont fait musicien de studio pendant toutes les années 80 et 90. Alain va d'ailleurs se payer son petit sucre, à savoir les studios d'Auteuil à l'intérieur desquels j'ai réalisé cette interview, et produire quelques artistes comme entre autres Danny Briand, Tac Farinas, Les Charts, Brahim Isri ou encore Mano Solo, dont il n'est pas peu fier d'avoir réalisé les albums, j'ai cru comprendre. René Guérin, le batteur, a complètement disparu de la circulation musicale. Gérard Pisani, quant à lui, a réalisé quelques albums punk à la fin des années 70, avant de se tourner vers une carrière de musicien de jazz. Et puis enfin, Patrick Dietsch, qui était un des tout premiers membres du tout premier Martin Circus. Il était en concert il n'y a pas très longtemps au Petit Journal Montparnasse, et aux surprises, figurez-vous qu'il y avait deux membres de Martin Circus, à savoir Bob Bro et Gérard Pisani, donc bassiste et trompette de Martin Circus. Comme quoi, il y en a quand même certains membres qui continuent à se voir et à se fréquenter, hormis les trois membres dont je vous ai parlé. Voilà, je vous propose tout de suite d'écouter Patrick Dietsch dans Tout tremblant de fièvre. C'était un des tout premiers succès des Martin Circus. Puis juste après, on enchaînera avec Les Variations, dont on a parlé un petit peu au cours de la première interview. Les Variations avaient mené par Joleb, un groupe qui mélangeait au début des années 70 le rock'n'roll et des influences beaucoup plus, world music. Vous allez voir ça tout de suite, puisque les membres étaient originaires du Maroc. À la semaine prochaine.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll.
Alivre FM 93.1. Libre.